Nous lirons ce matin dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, les versets 12 à 36. La sagesse parle et elle dit « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure l'esprit avisé. Je sais trouver la connaissance de la réflexion. La crainte du Seigneur, c'est détester le mal. » La suffisance, l'orgueil, la voix mauvaise et la bouche perverse, je les déteste. Le conseil et la raison m'appartiennent, je suis l'intelligence, la force m'appartient. C'est par moi que les rois règnent et que les princes légifèrent avec justice. C'est par moi que gouvernent les chefs, les nobles, tous les juges de la terre. Moi, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi, il y a richesse et gloire, bien durable et juste. Mon fruit est meilleur que l'or fin. Et ce que je rapporte vaut plus que l'argent de choix. Je marche sur le chemin de la justice par le sentier de l'équité pour donner un patrimoine à ceux qui m'aiment et remplir leur trésor. Le Seigneur m'a produite comme le commencement de sa voie, avant ses œuvres du temps jadis. Je suis investie depuis toujours. Depuis le commencement, depuis l'origine de la terre, j'ai été mise au monde quand il n'y avait pas d'abîme, pas de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient en place, avant les collines, j'ai été mise au monde. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de la poussière du monde. Lorsqu'il installa le ciel, j'étais là. Lorsqu'il traça un horizon sur l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il assigna à la mer ses limites pour que les eaux n'en passent pas les bords, lorsqu'il traça les fondations de la terre, j'étais à ses côtés comme un maître d'œuvre. Je faisais jour après jour ses délices, jouant avec lui en tout temps, jouant avec le monde, avec sa terre, et trouvant mes délices parmi les humains. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi, heureux ceux qui gardent mes voies, écoutez l'instruction et devenez sages, n'en faites pas peu de cas. Heureux celui qui m'écoute et qui veille jour après jour à mon conseil, qui monte la garde près des montants de mes portes, car celui qui me trouve, trouve la vie et obtient la faveur du Seigneur. Mais celui qui me manque se fait du tort à lui-même. Tous mes ennemis aiment la mort. Je vous invite à chanter ensemble « Ô Dieu des grâces éternelles » le 297, les strophes 1, 2 et 3.
Thank you.
asseoir. Nous prions ensemble avant de méditer ces Écritures. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits à ta sagesse. Permets que nous puissions en être bénéficiaires dans nos vies et en faire bénéficier ce monde. Ouvre-nous à ta parole, au milieu des mots anciens de la Bible, au milieu de la foi de ceux qui ont cru avant nous. Permets que nous trouvions les mots qui nous interpellent. Amen. La sagesse parle, et aujourd'hui elle nous parle à nous qui avons baptisé deux enfants pour lesquels nous espérons le meilleur. Quoi de meilleur que la sagesse dans une vie? Dans certains passages du livre des Proverbes, il arrive que la sagesse crie. Elle se présente et son portrait ici est assez flatteur. « Je suis l'intelligence, dit-elle. » Avec moi, il y a richesse et gloire, bien durable et justice. Dans la Bible, la littérature de sagesse ne prend pas toujours la forme d'une prosopopée comme ici. Elle peut se faire poésie, satire parfois, ou allégorie. On la trouve dans des livres comme celui des Proverbes, aussi appelé « Livre des Maximes de Salomon » ou encore en hébreu « Machal ». Mais on trouve aussi des écrits de sagesse dans d'autres livres, le livre des psaumes ou encore le livre de l'Ecclésiaste, bien sûr, mais aussi dans les passages des évangiles où Jésus s'exprime comme un sage. Le sermon sur la montagne dans Matthieu ou le sermon dans la plaine chez Luc. Quelle est donc cette sagesse dont parle la Bible? Le terme « hokma » en hébreu renvoie à la sagesse, mais davantage à une pratique qu'à un concept. Et c'est là tout l'intérêt de la traduction de ce terme qui renvoie à un art, à un savoir-faire. La sagesse serait une pratique comme celle des artisans d'art, ces virtuoses qui ont une pratique exceptionnelle parce qu'ils saisissent intuitivement l'essentiel de l'œuvre qu'ils accomplissent en travaillant sans relâche. Leur pratique devient ainsi une intelligence du geste et une part d'eux-mêmes. « Je suis l'intelligence, dit la sagesse. » Cela pourrait passer pour de l'orgueil aux yeux du lecteur, mais ce serait perdre de vue le principe de base de toute sagesse biblique, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas une peur qui paralyse ou qui rend esclave, mais plutôt une déférence comme celle d'un apprenti devant son maître qui lui montre la bonne façon de faire. Il s'agit là non pas de peur, mais d'autorité. Non pas de terreur, mais de foi en celui qui montre la voie. Le texte dit « la crainte de Dieu, c'est détester le mal ». Ainsi, craindre Dieu, c'est chercher une pratique qui se détourne du mal. Dans ses confessions, saint Augustin explique qu'il a cherché l'origine du mal et il reviendra plusieurs fois sur ce thème dans son écrit. Il écrit « Je disais, voici Dieu et voilà ce qu'il a créé. Dieu est bon, il vaut mieux de beaucoup et de loin que ses créatures, mais comme il est bon, il les a créées bonnes. Et voilà comment il les entoure et les remplit. Où donc est le mal? D'où procède-t-il? Par où s'est-il glissé jusqu'ici? Quelle en est la racine? Quelle en est la semence? Serait-ce qu'il n'existe point? Mais pourquoi craignons-nous ce qui n'est pas alors? Pourquoi nous en gardons-nous? Et si notre crainte est vaine, cette crainte elle-même est assurément un mal qui harcèle et tourmente pour rien notre cœur. Par conséquent, où le mal que nous craignons existe, où c'est notre crainte qui est le mal. Pour Augustin, Dieu est bon et sa bonté infinie entoure et s'infiltre dans la création. Il prend l'image de l'éponge dans la mer pour figurer son idée. La mer étant infinie, l'infini de Dieu, et la création une masse telle une éponge qui, logée dans cette mer infinie et créée par elle, est toute imbibée de la bonté de Dieu, se gonflant de cette bonté. Dans cette conception de l'implication de Dieu dans le monde, comment le mal pourrait-il trouver sa place? Il semble bien que le dévoiement de la crainte de Dieu en peur du mal soit la racine même de ce qui nous oppresse et de ce qui nous fait du mal. Craindre le mal serait une négation de la bonté de Dieu et serait source du mal, d'après Augustin. Alors que craindre Dieu au sens des écrits bibliques serait source de toute sagesse. Agir selon cette crainte de Dieu, faite de respect et d'exemplarité, serait ainsi la source de la sagesse dans la vie des hommes, une sagesse infinie et divine qui imbiberait l'éponge que nous sommes dans la mer infinie de l'amour de Dieu. Cette image d'une sagesse aux origines de tout est présente dans le livre des Proverbes, comme dans les Confessions d'Augustin. Elle est comme une mer infinie qui aurait baigné le monde en train de se faire, en train de s'ordonner, de s'harmoniser. Lorsqu'il traça un horizon sur l'abîme, j'étais à ses côtés comme un maître d'œuvre, dit la sagesse. Avoir en soi l'intelligence du monde, voilà ce qui pourrait repousser toute peur. Car que craignons-nous, sinon ce qui pourrait venir rompre l'harmonie que nous tentons de construire dans nos vies? La maladie, la violence, la mort, le deuil sont autant de chocs qui viennent mettre à mal l'œuvre de création de tout être humain. Et ces chocs surgissent sans que nous ne puissions les intégrer dans une harmonie du monde, dans notre monde. Les hommes se trouvent le plus souvent sans explication, sans intelligence devant les événements qui traversent leur vie, car ils sont saisis, surpris, sidérés. Et cette conscience de leur propre ignorance les incite à la peur. Avoir peur n'est sans doute pas mauvais en soi, on dit même que c'est nécessaire pour notre survie. Mais de la peur naissent des comportements, des attitudes, des façons d'être et de faire qui produisent du mal. Pour nous préserver nous-mêmes devant l'inconnu, devant l'étrange, devant l'incompréhensible, nous déployons des stratégies qui nous éloignent des autres et les créent comme ennemis à nos yeux. Le livre des Proverbes entend instruire celui qu'il appelle le naïf, c'est-à-dire celui qui est sans intelligence devant les événements, qui ne sait pas s'y prendre, qui n'a pas le savoir-faire de l'artisan dont on parlait tout à l'heure. Écoutez l'instruction et devenez sage, n'en faites pas peu de cas, dit la sagesse. Mais celui qui me rate se fait du tort à lui-même, tous mes ennemis aiment la mort, dit-elle. Ici, refuser de devenir sage, c'est refuser la faveur de Dieu, c'est refuser le bonheur offert par la foi. On arrive ici à un paradoxe dans lequel la foi et le savoir occupent le même terrain. Pourtant, croire et savoir ne relèvent pas des mêmes ressorts. Croire nécessite une confiance et savoir nécessite une connaissance. Mais la sagesse ne s'y trompe pas. Il est nécessaire d'entretenir un jeu avec le croire, même quand on apprend rationnellement. Il faut porter crédit à ce que l'on apprend. Et la foi fait appel à une certaine rationalité, une certaine logique. Vérifie-t-on tout ce que l'on apprend? Certainement pas. Que la terre soit ronde, nous le croyons, de ceux qui ont autorité et qui nous l'ont appris. Mais comment chacun pourrait-il le vérifier? Il y a donc un peu de croire là-dedans. De même, pourrait-on croire des choses totalement irrationnelles? Les discours de foi s'agencent selon des logiques pour pouvoir être entendus et s'habillent souvent de vraisemblances et d'éléments qui révèlent du savoir. Dire qu'il faut croire à Dieu le Père, par exemple, c'est en appeler à ce que nous connaissons d'un Père pour dire notre relation à un Dieu inconnu. Il y a bien du savoir là-dedans. Le point commun de ces deux activités, c'est la capacité à accéder à un langage symbolique pour dire et comprendre ce dont nous parlons. C'est donc le langage qui unit la foi et le savoir. Le Dieu des Écritures commande « Tu aimeras Dieu de toute ton intelligence ». La sagesse ne rejette donc ni la foi ni le savoir. Elle est l'intelligence qui reste ouverte aux deux, qui les agence ensemble, qui fait symbole. Admettre qu'il est impossible de tout savoir, c'est une sagesse. La sagesse croit même temporairement à ce qu'elle ne peut encore savoir. Cette attitude souple à l'égard du monde est source de bonheur, et c'est ce que nous affirme l'Écriture. Elle nous invite à apprendre sans cesse des autres, à remettre en question nos savoirs, à oser la rencontre et la découverte, et à nous prémunir contre nos a priori qui nous rendent parfois si bêtes. Dietrich Bonhoeffer disait « Contre la bêtise, on ne peut rien ». Ce théologien engagé contre le nazisme savait ce qu'il disait. Malheureusement, il en est mort de cette bêtise. Mais il ne parlait pas exclusivement de cette idéologie particulière, de cette politique de mort. Il parlait plus généralement de la bêtise en tant que refus du bonheur proposé par Dieu. Cette bêtise qui nous guette tous quand nous refusons la vie que Dieu nous promet, quand nous refusons de voir l'infini dans les petites choses, quand nous refusons de nous ouvrir à plus grand que nous, que l'on appelle cela Dieu ou non d'ailleurs. Quand nous préférons la calomnie à la vérité, quand nous jugeons ce que nous ne connaissons pas, quand nous refusons de comprendre la situation inédite et que nous préférons condamner selon nos propres dogmes, nos propres morales préfabriquées, alors nous risquons de produire beaucoup de mal en refusant l'intelligence et en repoussant la sagesse. Au bout du compte, quel mal est pire que la bêtise ? N'est-ce pas l'ennemi de la sagesse, sa véritable antithèse ? Racisme, sexisme, homophobie et autres condamnations sans jugement ne sont-ils pas les expressions d'une bêtise qui préfère la peur à la sagesse ? La peur de l'autre et de la différence, la peur de l'immensité de ce qui reste à connaître de notre monde et des humains qui le peuplent, la peur de se noyer dans la mer infinie des possibles de Dieu et de sa création. Cet infini des possibles auxquels nous sommes confrontés à chaque instant a de quoi terrifier en effet si l'on ne fait pas confiance à celui qui nous guide, à celui qui nous dit d'aimer notre prochain sans s'inquiéter des risques que nous prenons. Ainsi, la peur nous guette-t-elle toujours, et avec elle la bêtise. Mais il existe un remède, la sagesse. Cette sagesse infinie et divine qui nous invite à sans cesse nous replacer dans l'humilité de ceux qui ont tout à découvrir, et qui expérimentent l'accroissement exponentiel de ce qu'ils ont à apprendre à mesure qu'ils apprennent. Plus on apprend, plus on sait tout ce que l'on ignore. Comme l'éponge d'Augustin qui s'imbibe et se charge de la bonté de Dieu Notre vie est appelée à s'inspirer de cette sagesse infinie qui nous entoure et nous crée de jour en jour et crée notre monde. Nous en inspirer pour cesser d'avoir peur, nous sentir dans la bonté de Dieu pour regarder nos frères les hommes comme des amis et non plus des ennemis. Il nous faut apprendre à nos enfants, et c'est ce que vous faites avec vos enfants, le bonheur de la découverte, le bonheur de montrer la voie de l'intelligence est un réel bonheur pour des parents. Et nous avons en ce devoir, nous qui sommes adultes et qui avons en charge l'éducation de nos enfants et de ceux qu'on nous confie. Ainsi, de génération en génération, ils aimeront ce qu'ils appelleront peut-être Dieu ou bien l'infini, mais ils aimeront de toute leur intelligence et ils pourront aimer leur prochain comme ils sont aimés de Dieu. Amen.
Thank you.